Je veux sortir là, allez là.
Sortez, ça fait trop de bien. Ça dégourdit les gens, allez-y les gars.
J'adore ça, moi je sors tout le temps.
Mais putain, sortez de chez vous,
je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête, les touches fermes, sortez.
Oui, alors oui.
Franchement, c'est trop chouette, ça rencontre des gens, trop intéressant. Allez-y quoi.
Sortez.
Sortez.
Sortez les gens.
Ok, vous voulez sortir.
Écoutez,
sortez.
Veuillez sortir.
Je suis chaud comme un chocolat.
Sors !
Il est 16h sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Vous écoutez l'émission Sortez. Et si vous connaissez bien Radio Campus à cette heure-ci, vous commencez à connaître la chanson. Samuel est avec moi pour animer cette émission. Salut Samuel.
Salut Marie, comment ça va ?
Ça va et toi ?
Ça va, ça va. Avant de présenter les invités du jour et l'exposition qui vient nous présenter, on vous propose d'écouter une nouveauté musicale du sextet hollandais Nu Santara Beat, dont certains membres sont des musiciens du groupe Jungle by the Night. On est sur du jazz fusion, dont un projet musical puise dans les sonorités indonésiennes.
vous venez d'écouter Sifat Manouzia de Nusantara Beat et suivi d'un extrait live de Azuti Wallin et Sina Pegami qui était ce week-end au festival Superflu. On est toujours donc dans l'émission Sortez. Louise est aussi présente avec nous pour animer cette émission. Coucou.
Salut.
Et donc Louise, tu es une voix familière sur ces ondes, bénévole et membre du conseil d'administration.
Et oui, une grande carte.
Attention, attention. Et on t'entend dans l'émission Campus Indie Pop Rock, un lundi sur deux à 20h et dans divers formats comme ce week-end à Superflu, entre autres.
Et oui.
Comment ça va?
Bah écoute, ça va très bien et toi?
Ça va bien, je te remercie.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Bonnie et Audrey du collectif Olala qui accueille l'exposition Le plus difficile serait d'imaginer que les oiseaux arrêtent de danser avec deux artistes invités. Le vernissage a lieu demain, le jeudi 10 avril. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Salut. Ça va et toi?
Ça va, ça va. Alors, première petite question, du coup, je le disais, le vernissage de cette expo, c'est demain, de 18h à 21h, à l'atelier 5 bis à La Riche. Et l'exposition sera visible du 10 avril au 21 mai. Elle sera accessible sur les permanences. Quand est-ce qu'elles sont?
Alors, les permanences, elles ont lieu le mercredi, de 14h à 18h, et le samedi et le dimanche, de 15h à 18h. Donc voilà, il y a l'adresse sur les affiches et vous venez, vous rentrez. Et en général, il y a des membres de l'atelier qui sont là pour vous accueillir et il y aura souvent les artistes aussi pour une médiation des plus précises.
Et alors, donc, c'est la toute première exposition que vous réalisez avec des artistes invités. Il s'agit de Florent Gay et Gwenaël Lebé. Quels sont leurs styles respectifs et les techniques employées?
Alors... L'avantage d'avoir choisi ces deux artistes, c'est qu'ils sont tous les deux graveurs. Gwenaël grave au burin et Florent, lui, qualifie la pratique de la gravure comme un médium refuge. Mmh. Et il emploie... Il a plusieurs techniques, que ce soit la linogravure, l'aquatinte, l'eau forte. Mais ils font aussi du dessin, d'installation. Voilà, il y a plusieurs...
Donc multi-technique.
Multi-technique, ouais.
Et cette exposition, combien d'œuvres est-ce qu'elle comprend?
Alors, combien de pièces elle comprend? Il y en a au moins 7 ou 8. Je crois qu'il y en a presque 4 par personne. Donc voilà, c'était faire le... J'ai la chance d'être la commissaire de l'exposition, en tout cas pour cette toute première exposition que le collectif Olala accueille aux ateliers 5 bis. Et c'était pour moi un petit pari et aussi pertinent de les faire exposer tous les deux. Et entre politique et poétique, ils ont une vision du monde et du quotidien qui leur sont propres. Et le fait de les faire exposer ensemble, je pense que c'est une douce critique de ce qui peut se passer aussi en ce moment. Et voilà.
Et est-ce que tu as dû faire une sorte de sélection par rapport aux œuvres?
Oui et non. Enfin, on est aussi amis dans la vie, on a aussi avancé tous les trois. Et donc il y a eu des choix qui ont dû être faits, notamment en termes de timing, parce que c'est quand même des techniques qui demandent du temps. Donc toutes les pièces prévues pour l'exposition ne sont pas forcément exposées, mais on a réussi... à trouver d'autres pièces qui existaient déjà. Du coup, c'est à la fois des anciennes pièces et à la fois des nouvelles pièces. Et l'exposition est finie d'être montée et ça dialogue plutôt bien. Donc voilà.
Et alors, l'affiche qu'on nous a communiquée, elle est toute en poésie, dans des tons rouges. elle représente des fleurs et un ou une chevalier avec une épée et un étendard, c'est bien ça?
Oui.
Est-ce que c'est une gravure de l'exposition qui est représentée?
Alors, c'est des petits détails qu'on peut retrouver sur certaines pièces respectives de Gwen et Flo. La petite fleur, la petite marguerite en crochet sera retrouvée sur une aquatinte de Flo. Et le chevalier, c'est Donald Trump sur un cheval à balai. Qui est un petit détail aussi d'une pièce qui s'appelle « Grâce aux cuisses » de Gwen.
Ah mais c'est super, voilà. C'est le détail voilà. Qui manquait et qui fait tout.
Et alors cette phrase « Le plus difficile serait d'imaginer que les oiseaux arrêtent de danser », c'est-à-dire les oiseaux dansent?
Ben, souvent, les oiseaux, quand on les voit voler dans le ciel, qui sont tous ensemble, j'ai l'impression qu'ils dansent. En tout cas, je me demande ce qui se passe là-haut, mais ils sont tous ensemble et ils dansent. Et c'est hyper beau comme spectacle qu'ils nous offrent. Et c'est un titre qui est peut-être un peu mélancolique, ou en tout cas qui peut le paraître. Et c'était aussi une manière dans les contextes politiques actuels, de se dire que c'est vrai que des fois, le plus difficile, c'est d'imaginer ce qui pourrait se passer. Et c'était aussi compliqué de trouver un titre qui pouvait correspondre aussi à tous les deux. Parce que même si c'est très pratique de les faire exposer tous les deux, ils ont quand même des sujets qui sont aussi un peu diamétralement opposés. Donc voilà, il fallait que ce soit un titre qui englobe tout ça. Et j'aime bien les titres longs, donc voilà.
Et qui se déroule un peu comme un verre, finalement. Donc oui. c'est plutôt chouette. Ouais. Comment elle s'est faite, votre rencontre avec ces deux artistes, Florent Gay et Gwenaëlle Lebet?
Alors, Florent, je l'ai rencontré quand j'étais à l'école des Beaux-Arts, car lui aussi, il y était, avec 3-4 années de plus que moi. Et puis, en fait, c'est aussi mon collègue à l'école des Beaux-Arts de Tours, parce qu'on enseigne tous les deux là-bas pour les cours publics. Donc, Flo enseigne la gravure et moi, la céramique. Et Gwen, lui, a fait l'école des Beaux-Arts de Tours jusqu'à sa troisième année. Ensuite, il est parti à l'ARBA en gravure à Bruxelles. Et il est revenu il y a à peu près un an et demi à Tours. Et il s'est réinscrit au cours public de gravure pour pouvoir tirer certaines de ses gravures. Et du coup, notre rencontre, elle s'est fait là. Et depuis, j'adore leur travail respectif et... c'était important pour moi de pouvoir les exposer.
Et si on peut un petit peu développer les univers respectifs de ces deux artistes, tu disais qu'ils avaient tous les deux des thématiques assez opposées finalement.
Oui, c'est assez opposé, mais ça reste néanmoins une sorte d'observation, en tout cas du quotidien. Mmh. Chez Flo, elle se traduit d'une manière assez poétique, aussi assez sensible. Dans le sens où Flo, il s'aide de structures roulantes, que ce soit un camping-car ou alors un vélo atelier, qu'il transforme pour pouvoir se balader plus haut que les voitures et avoir sa presse à gravure dessus. Je vous en dis pas trop parce que c'est quand même des pièces à découvrir à l'exposition. Mais c'est aussi, il a une manière d'observer les paysages qui l'entourent, les traces subtil que le vivant peut lui offrir aussi le matin quand il se réveille ou autre. Et Gwenaëlle, lui, il est dans... En tout cas, l'observation du quotidien chez lui, elle se traduit pas mal sur des images médiatiques il se sert des images politiques et médiatiques dont il retravaille les images et il en propose une relecture à travers, de se jouer des figures politiques qui sont en vogue en ce moment.
L'expo se passe à l'atelier 5 bis, un atelier que vous avez fondé. Oui. Depuis combien de temps est-ce qu'il est ouvert? Quelle a été l'impulsion qui a créé cet espace de travail?
L'atelier, il est ouvert depuis... Il est ouvert depuis le 18 octobre 2024. C'est le collectif Olala qui a... On a monté un collectif avec Léa Haut-Couturier et Alice Guiraud-Milandre et on s'est dit que c'était bien d'avoir un collectif mais que ce serait encore mieux d'avoir un lieu. Et on a prospecté dans la ville de La Riche en vue d'avoir une maison. Et une fois que c'était à peu près bon, on a réquisitionné Antonin et Audric avec moi en leur disant « Est-ce que vous voulez faire partie de l'aventure ?» Et voilà, je peux te laisser continuer, Audrey.
Salut. Du coup, oui, c'est ce que disait Bonnie. On a ouvert le lieu au public depuis le 18 octobre par le biais d'un vernissage. Où on a chacun présenté nos installations et nos œuvres et ce qui nous était cher sur une thématique commune, puisque c'est le but de la maison, d'avoir une cohérence et une direction commune. Moi, du coup, je ne fais pas partie du collectif Olala, mais j'ai un projet textile qui s'appelle Saveur de fleurs, sur lequel je reviendrai peut-être tout à l'heure. Et, du coup, on a récupéré, c'est assez symbolique et marrant, je viens de m'en rendre compte, on a récupéré les clés il y a un an tout pile. Ouais, donc, c'est assez cool. Voilà, que dire de plus, on est ravis d'être dans cette maison. Merci la ville de La Riche. Merci Bonnie aussi d'avoir su fédérer aussi. Cette envie commune de faire des choses de quelconque manière. Nous, ça se traduit par des choses en lien avec l'art, avec un énorme A, et l'artisanat également. Enfin, j'englobe un peu le tout. Et voilà, ça nous permet de s'exprimer, d'inviter, comme l'expo qui commence demain jusqu'au 22 mai. Et voilà, on a récupéré les clés il y a un an, on a travaillé, on a retapé un peu la maison, repeint. Pris le soleil aussi, fait 2-3 barbecues et on a été ravis de l'ouvrir officiellement en lieu culturel depuis le 18 octobre.
Parce que pour les auditeurs qui n'auraient pas vu en tout cas le lieu, en fait c'est une sorte de, enfin c'est une maison au départ, ouais. Et donc il y a cet aspect aussi de convivialité qui est très présent. En tout cas moi j'étais présente au vernissage, le premier vernissage du coup, et c'était hyper convivial, il y avait plein de monde et c'est vraiment une très bonne ambiance. Donc je vous conseille d'y aller demain.
Et alors on est près de 6 mois après son ouverture au public. Qu'est-ce qui a évolué entre-temps ?
Qu'est-ce qui a évolué entre-temps ? On a fait quand même une énorme pause hivernale parce qu'on a quand même passé 6 gros mois à nettoyer tout de fond en comble. Donc c'est vrai qu'on a fait une pause, et Audrey disait tout à l'heure que c'était un lieu de programmation mais aussi un lieu de, on peut recevoir, parce que bah, toi t'as eu l'occasion avec Léa d'enfin avoir ton magasin.
Ouais. Ça rigole. Oui, c'est ça. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le 18 octobre. Ensuite, il y a eu une pause histoire de souffler et de récupérer un petit peu d'énergie. Et ensuite, dans la foulée, donc avec Léa, qui fait partie du collectif Olala, on s'est associé pour proposer une collection commune de vêtements sous Saveur de fleurs, du coup, sous mon projet textile. Et on a pu avoir la chance donc, d'exposer pendant 3 semaines et demie sous forme d'un magasin physique, ce qui est une première pour moi, pour elle aussi, donc c'était assez cool. Et ça permet en fait de créer des croix de rencontre en fait. On croise des gens, que ce soit le voisinage, la personne qui pose son courrier, des invités, des amis, etc. Enfin, il y a une chose un peu conviviale qui remonte, c'est qui ressort et qui enlève certains clivages qu'il peut y avoir entre chaque pratique, qui est clairement notre plus aux ateliers 5 bis. Et comme tu disais tout à l'heure, Louise, cet aspect maison et cet aspect salle d'exposition dans un garage, je trouve que c'est une force de frappe incroyable. Donc venez demain. En fait.
Ça rythme bien les propositions, en tout cas, cet aspect un peu pluridisciplinaire qu'il y a aux ateliers. Je trouve que ça rythme bien la programmation et...
Merci à vous pour cette belle présentation. On va pouvoir y revenir plus en profondeur. On va faire une pause musicale sur le 99.5 FM. Que va-t-on écouter, Marie ?
Oui, alors on s'apprête à écouter Jeanne et les autres avec Les grands travaux, d'après les suggestions de nos invités.
J'ai fait la course dans un long couloir, derrière moi tout s'effondre. J'ai perdu des frères et quelques illusions. J'ai fini par me taire, j'ai vidé mon verre. Avec ou sans moi, les étoiles brilleront de toute façon. Mais c'est pas ma haine qui t'emmènera en prison, alors que sur moi elle agit comme un poison. Ta trahison, trahison, je la connais par cœur. J'écris des chansons, j'ai tout recousu solo encore une fois. Je t'aime à la mort mais j'ai plus besoin de toi. Cette fois je crois bien que j'ai retenu la leçon. J'ai tant la rage de vivre, je leur ai donné des soupçons. Je vois du rouge et du violet, je pense au billet, je pense à briller. Maman faut pas briller, non je peux pas rire. Je le rappelle quand j'aurai fait, je le rappelle quand j'aurai enfin les moyens de guérir. Je vois du rouge.
fait pour sortir de la galère. Je n'ai pensé qu'à moi, je n'ai pensé qu'à ma gueule. Quand j'ai pensé comme toi, je n'ai pensé qu'à ma gueule. Si c'est la fin de l'hiver, pourquoi j'ai toujours si froid? Fuck, j'ouvre les yeux, la porte était grande ouverte.
D'écouter Jeanne et les autres et son titre Les grands travaux sur Radio Campus Tour. Et ce titre, il n'a pas été choisi par hasard. On va en parler dans un instant. Jeanne et les autres, on la voit posée pour le projet Saveur des fleurs. Avant ça, on va contextualiser un peu et partir à la rencontre du collectif Oh là là. Et du coup, quelle est sa petite histoire?
Pour la petite histoire, c'était que l'été 2023, j'étais avec Alice, du coup, qui est la présidente de l'association, et on était en train de répondre à un appel à projet sur une résidence de céramique pour Toulouse. Et on se voyait quasiment tous les jours pour faire notre dossier. Et une fois qu'on a envoyé le dossier, on s'est retrouvés un peu là. Bon, bah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et on avait toutes les deux très, très envie de pouvoir... monter un collectif, et du coup on s'est dit c'est parti, on le monte, on y va. Dans tous les cas, c'est plus facile d'être en collectif, en fait, de faire corps ensemble, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe avec les coupes budgétaires de la culture. Donc on s'est dit, on se fait un collectif, et on s'est dit, bon, deux, c'est bien, mais trois, ce serait mieux. Et on a demandé à Léa si elle voulait nous rejoindre. Elle a accepté. Et puis après, bah voilà, ça a commencé. Il a fallu trouver un nom de collectif. Il a fallu faire les papiers en asso pour pouvoir réaliser nos projets. Et puis, on avait en tout cas toutes les trois l'envie d'avoir un atelier, mais aussi pouvoir avoir une salle de diffusion pour soutenir... les jeunes artistes plasticiens et plasticiennes, de pouvoir demander des subventions pour les rémunérer. C'est une chose qui nous tient à cœur, de rémunérer à juste titre le travail, et voilà, de pouvoir aussi en fait s'éclater dans les propositions qu'on pouvait faire pour des expositions.
Et alors, moi qui connais pas trop comment ça marche, le fait d'être en collectif, c'est plus simple pour obtenir des subventions? Ça sert de socle?
Ça sert de socle, en fait. Les mairies, elles sont, en tout cas les collectivités ou autres, c'est plus facile d'accorder, je pense, des subventions à une association, à un groupe de personnes motivées qui peuvent, pour proposer en tout cas des programmations artistiques et culturelles. Mmh. Et c'est un bon levier, je trouve, pour y a aussi un côté aussi où on peut s'autoproduire, en fait, en ayant aussi un lieu. Et surtout que c'est beaucoup moins fatigant d'être à plusieurs que tout seul, parce que il y en a toujours un qui peut rattraper l'autre. Et et aujourd'hui, les collectifs d'artistes, il y en a de plus en plus, et c'est une bonne manière de faire corps, en tout cas entre nous.
Et alors, tu le disais, t'enseignes donc la céramique. Quel a été ton parcours et quelle formation est-ce que tu as suivi avant de former ce collectif?
Alors, moi, mon parcours, je suis rentrée aux Beaux-Arts quand j'avais 21 ans. Et j'ai été diplômée de l'École des Beaux-Arts de Tours en 2022, avec Léa aussi. Alice, elle a été diplômée en 2020. Et je suis sortie de l'École des Beaux-Arts, j'ai été embauchée pour donner des cours du soir en céramique, et ce qui me permettait d'avoir un revenu pour pouvoir subvenir à mes besoins et aussi du temps pour pouvoir continuer ma pratique artistique. Et je suis artiste plasticienne, mais je suis aussi attirée par le commissariat d'exposition. Et ce qui explique aussi ma joie de pouvoir présenter l'exposition de demain. Et donc toujours avec Léa, on a monté une exposition après notre sortie d'école qui s'appelait Codex, qui était aux Octrois, donc là où se situe l'association Mode d'emploi, qui est aussi une structure qui diffuse les artistes émergents. Et à partir de ce moment-là, c'est ça qui a un peu scellé en moi cette envie à la fois de produire et à la fois de pouvoir faire du commissariat. Et puis voilà, après Codex, Alice faisait partie de mes artistes invités pour proposer des éditions. Et voilà, puis après avec Alice, on a répondu à l'appel à projet, on a monté l'association et voilà.
Et du coup, le nom de ce collectif, ouais. Oh là là, d'où est-ce que ça vient?
Je crois que je vais vous dire la vérité. C'était que comme on n'avait pas de lieu de travail à part chez nous ou au Tourangeau, qui a été nos bureaux pendant très très longtemps, le bar Le Tourangeau, on se voyait souvent là avec Alice et Léa. Et Alice a la particularité de dès qu'elle voit un animal mignon passer, de crier oh là là. Et après des heures et des heures de travail à entendre oh là là, on s'est dit bon, peut-être qu'on va s'appeler le collectif oh là là. Et c'était court, c'était rigolo, ça se retient bien. Et puis voilà, la petite anecdote.
Et justement, je me disais, travailler en collectif, est-ce que ça crée des notions, enfin des sortes de travaux communs entre vous?
Ça a créé une exposition commune où chacun a créé aussi un peu dans son coin, mais pas que, parce qu'on avait aussi des discussions qui permettaient de se faire des updates. Avec Audrey, on avait un update tous les matins et tous les soirs, des fois même le midi.
Tout le temps, en fait.
Ouais, tout le temps. Et comme Audrey et Léa qui ont sorti une collection ensemble. Je sais qu'avec Alice, on a la volonté de faire une pièce commune pour octobre, pour une autre ouverture d'atelier qui sera en octobre. Et donc oui, en fait, ça nous permet de pouvoir faire dialoguer nos pratiques respectives, mais aussi de pouvoir faire venir aussi d'autres gens pour venir créer avec nous. Et voilà.
D'apprendre aussi.
Ouais,
d'apprendre aussi. Pour ma part, moi, je ne savais pas du tout comment fonctionnait la création de céramique, tu vois, le processus
ouais,
de création. Ouais. C'est des choses que je n'avais pas vues. On les voit sur Instagram, mais ça ne nous montre rien du tout. Mais c'est ce que ça ajoute aussi, en fait, l'apprentissage et le fait de se connecter à des gens ou à des rouages, à des choses qu'on ne connaissait pas ou qu'on voyait peut-être de très loin. Et ça nous permet de s'en rapprocher, en tout cas, donc c'est cool.
Est-ce que ça vous permet aussi de vous inspirer de certaines créations?
Oui.
Ouais,
oui,
je pense. Hein.
Oui, quand même. Ouais. L'inspiration, en fait, c'est un truc que je trouve très global. Ouais. Tu peux prendre le bus à mes yeux et être inspiré en regardant une fenêtre de manière très classique, avec un son de Jeanne et les autres, par exemple. Mais oui, c'est sûr qu'il y a cet apport-là, c'est certain. Enfin... ça peut même, enfin j'irais même peut-être plus loin dans voir, enfin faire preuve de mimétisme, tu vois, genre tu vois des gens qui travaillent, ça te donne peut-être aussi envie d'avancer, de faire tes choses, de continuer dans ta pratique et de te connecter à celle des autres. Antonin qui est dans la maison, qui fait des bonsaïs, faut voir la minutie que ça demande. Quand on voit cette personne-là, c'est pas forcément ce qui vient à première vue. C'est cool aussi de voir ces choses-là, de voir la personne dans son art, dans sa pratique, dans ses choses concentrées. Donc oui, carrément, pour répondre à ta question.
Bah là, tu viens de tendre une belle perche. Alors, ça va être une dernière question avant de passer à ce projet Saveur de Fleurs.
Ouais.
Quel style et quelle technique est-ce que vous explorez au sein du collectif et de cette maison aux ateliers 5 bis?
Eh bien, je crois qu'on est vraiment, à nous cinq en tout cas, hyper pluridisciplinaires. Alice, elle travaille pas mal la céramique, le modelage. Elle aime beaucoup toucher à la vidéo aussi. Elle a aussi une grosse partie de son travail et de son temps qui est consacrée au dessin et à l'illustration. Et c'est aussi une fan d'édition elle fait vraiment des éditions d'artistes, des fanzines. C'est vraiment une grande fan d'édition. Léa, elle se range plus du côté de la peinture et du textile. Elle peut produire des très grandes toiles en peinture, comme aussi des très grosses sculptures en textile rembourrées où on aurait envie de se jeter dedans, mais elle veut pas. Et Antonin,
donc ouais, pratique du bonsai, donc qui est membre.
Ce qui est assez peu commun.
Ce qui est plutôt rare même. Il en a pas mal dans le jardin qui l'embellissent quotidiennement d'ailleurs.
Vous pouvez venir les voir demain.
Ouais. Venez demain en fait. Et à côté de ça, il fait aussi de la céramique, donc il essaie de faire ses pots en fait de bonsai et de lier ces deux pratiques là. Et ça fait quatre. Et puis ensuite, il y a moi qui fais du vêtement, du surcyclage de vêtements.
Et du coup, Audrey, tu portes le projet Saveur de Fleurs. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ?
Oui, Saveur de Fleurs, du coup, projet textile de seconde main. On récupère des pièces de seconde main, du coup, et qu'on vient retravailler, donc surcycler, par le biais de la peinture, couture, sérigraphie, broderie. La thématique est florale, d'où le nom du projet. Voilà, ça peint des fleurs, ça embrode, ça récupère des patchs à gauche, à droite, et ça donne une seconde vie ou une troisième, une quatrième vie aux vêtements qui est là depuis longtemps. Et le kiff ultime, c'est vraiment de se dire qu'il y a des vêtements qui sont en circulation depuis et il n'y a pas forcément besoin d'en créer d'autres. Donc voilà, je me suis mis sur le médium là pour ces raisons-là. Je pense que c'est la possibilité la plus claire et précise d'avoir une pièce unique. De quelconque manière, que ce soit parce que tu as envie de te différencier ou parce que tu as envie de dégager une forme de personnalité par le biais d'un t-shirt ou d'un pantalon ou autre, il y a plein de pièces qui peuvent illustrer cet exemple là mais voilà, le but c'est vraiment d'ajouter un peu de couleur aussi quand on regarde l'hiver qu'on a passé et tout ce qu'on passe, c'est souvent sur du noir que ça s'oriente, etc., des choses un petit peu plus ternes. Je trouve ça marrant d'ajouter de la couleur, ouais. Et de proposer des choses différentes, tout simplement, même si j'ai rien créé, j'ai rien inventé. C'est la fleur, c'est très basique, ça parle à tout le monde. Il y a une forme d'aspect solaire qui me plaît bien dans le projet que je tente de porter, en tout cas.
Et ces vêtements, tu les récupères où?
Je les récupère un peu partout. Au tout début, ça a été beaucoup de bouche à oreille. Ah, tu lances tel ou tel projet. En vrai, déjà de base, j'aime bien le dire, j'en serais pas là sans les gens, sans les amis, sans toutes ces personnes qui ont des vêtements qui dorment et qui sont prêts à les donner dans un premier temps pour pouvoir te développer en bonne et due forme. Je trouve ça quand même assez nécessaire et important de le dire, parce qu'on dit tout de suite, on dégage du bénéfice. En vrai, au début, c'est important de se dire qu'il y a des gens qui sont là et qui t'apportent cette passe décisive-là qui te permet, toi, de te lancer. Du coup, au début, ça a été clairement du don de personnes qui s'en servaient plus. Puis ensuite, j'ai affiné le projet, donc j'ai affiné aussi mes recherches. Et je me réassors là où les friperies se réassortent pour pouvoir avoir un prix dégressif, ce qui me permet de proposer des prix plus bas à la revente. Donc c'est des grands entrepôts en campagne, Poitevine, puisque c'est de là d'où je viens globalement, et c'est là où j'ai récupéré des kilos et des kilos de vêtements, et là je suis en train de réfléchir à où je vais me réassortir, puisque il y en a plus, quoi.
Est-ce que tu as déjà pensé à aller à la vestiboutique, dans les vestiboutiques de la Croix-Rouge ou des choses comme ça? Je pense que
Oui, parce que je suis bénévole.
Toi aussi.
Ouais. Du coup, oui, mais non, parce que je trouve que le projet prend une tournure de business qui me convient moins. Même s'ils ont des kilos et des kilos de vêtements, justement, si tu as été bénévole aussi là-bas, tu vois bien que tout n'est pas traité à l'instantané. Je préfère laisser ces vêtements à des gens qui ont juste besoin de se réchauffer, on va dire. Donc, je préfère payer avec mon numéro de ciré et ma boîte, quoi, en gros, des vêtements pour les proposer et appliquer un prix. mais je me voyais pas récupérer un pantalon à 2 balles et le faire partir à 50-60 parce que j'ai mis 3 fleurs dessus, pour être totalement transparent. Donc non, je me réassors pas en boutique Emmaüs, ça je le garde peut-être plus pour moi, pour avoir le meilleur baggy de la ville.
Alors je rebondis rapidement parce que le temps file. On parlait d'inspiration tout à l'heure. Toi, quelles ont été ou quelles sont tes inspirations pour ce projet ?
J'aime beaucoup Tyler the Creator. C'est pas forcément une référence de base de vêtements, mais de mode, oui, iconique. À mon avis, oui. En toute objectivité. Franchement, totalement. Mais oui, du Tyler the Creator, du ASAP Rocky aussi, des gens qui enlèvent toute norme et toute forme de genre dans le vêtement. C'est vraiment ça qui m'a donné envie, en fait, tout simplement, de mettre ma bébé pierre à l'édifice, on va dire. De ce côté un peu non-genré du vêtement de seconde main.
Et David Bowie ?
David Bowie, j'avoue, j'ai jamais écouté, donc je ne peux pas trop rôler. Désolé, Radio Campus.
Louise, elle n'est pas bien. Eh bien, justement, on va faire une nouvelle pause musicale sur Radio Campus Tour. On écoute un autre artiste local proposé par nos invités. C'est Garusé et son titre Pesto Rosso.
Ces chanteurs pop, je suis un clébard, je suis devant leur porte. Je leur mets des claques, je suis devant leur pote. Puis je me casse devant mon poste, au frais, mon poteau. Qui c'est les chiffres gagnants du loto? Je prépare un band sans pesto rosso. On ne vend pas sans peine, tu fouteras sans peine. Car il part pas sans paye. Tu crois t'es qui, mon frérot? Je veux chauffer des salles et me rentrer, piquer un somme au télo. J'ai déjà des cas, pas de grand arrêt depuis le stade du préau. Et dans un movie grandeur nature. J'oublie les soucis dans la verdure. On est chez elle, elle me regarde et rien que ça me perturbe. Quand t'es dans la merde, t'es déjà mort le temps que ça percute. Ce que tu dis ne m'intéresse pas. Ce que tu dis ne m'intéresse pas. Je voulais te présenter l'espace. J'oublie le vide de baisser les tasses. Rester avec le désespoir. Ce que tu vis ne m'intéresse pas. Ce que tu vis ne m'intéresse pas. J'assume sous la pression, capuche pour la pénombre. Je bosse au fond de la maison, faut décacher pour la saison. J'avais le cœur, j'ai pas le caisson, dans mon monde y'a pas de saison. Faut arrêter de la chercher quand au fond y'a pas de raison. Avec mon cœur, elles font les belles brutes, ces vieilles grues. Je dois faire du blé, rien pour peut-être sécure la belle vue. Trop le mort, je laisse tomber. T'en as trop, bah laisse tomber. Trop de haine, je laisse monter. Pas sûr, je vais te montrer des soldats pour ma compagne. On se ramène jusqu'à ton palier. Si t'as pas réglé ton panier, on a tout noté sur papier. Car Dieu sait qu'il y a plus de temps de bail. Raison de vivre, c'est pas d'ailleurs. Si ça se pointe, bah j'ai rien préparé. Ce que tu dis ne m'intéresse pas. Ce que tu dis ne m'intéresse pas. Je voulais te présenter l'espace. J'oublie le vide de baisser les tasses. Rester avec le désespoir. Ce que tu vis ne m'intéresse pas. Ce que tu vis ne m'intéresse pas. Je voulais te présenter l'espace. J'oublie le vide de baisser les tasses. Rester avec le désespoir.
C'était Garusé de Pesto Rosso sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Et vous êtes toujours sur l'émission Sortez.
Et oui, et avec nous Bonnie et Audrey du collectif Oh là là. Petite question, enfin pas des moindres. Hein. D'où vient votre passion pour l'art ?
Oh là. C'est vrai que c'est une sacrée question. Je sais pas, j'ai toujours aimé un peu créer depuis toute petite, hein, que ce soit du dessin, moi. Comme souvent ce que les enfants aiment. Mais j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était graphiste et une maman qui était aussi assez alerte sur les expositions. Et du coup, j'ai eu la chance que mes parents, en tout cas avec ma sœur, nous ont souvent familiarisés en tout cas avec, avec l'art. Et puis, moi, je suis partie faire des études de psycho. J'en rêvais depuis quand j'étais en collège et au lycée. Et puis, bon, bah, j'y suis allée. C'était un beau raté. Et je ne sais pas, de manière assez... je pense assez intuitive, je me suis dirigée vers, vers des prépas, en fait, en art. C'est là que j'ai un peu découvert l'envers du décor. Et que, voilà, encore une fois, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenue, en tout cas, dans ces choix-là. Et j'ai la chance de pouvoir... enfin, d'avoir pu avoir accès à des études comme ça, mais en tout cas, moi, ce qui me plaît, que ce soit dans les arts plastiques, en tout cas, comme on les appelle, ou alors, comme disait Audrey, l'art avec un grand A, quand ça regroupe art contemporain, artisanat, enfin, toute forme d'activité artistique, en tout cas, c'est cette manière qu'on a de pouvoir s'échapper ou de pouvoir proposer en tout cas une relecture de ce qui peut nous entourer et puis de pouvoir transformer des matières, des matériaux voilà. C'est une manière un peu différente de rêver. C'est peut-être un petit peu naïf ou quoi, mais en tout cas c'est ce que j'aime dans nos métiers.
Pour ma part, moi, ça va être plutôt axé sur de la curiosité. De base, pour le coup, j'ai pas eu forcément la possibilité d'en faire tôt, de manière très globale. Moi, je pense que c'est plutôt une passion pour la mode de mon côté, même si j'aime beaucoup l'art global, hein, c'est toujours intéressant et c'est pour ça que je parle de curiosité. Mais c'est le fait de s'approprier de quelconque manière le vêtement, moi, qui m'a donné envie de faire ce que je fais là aujourd'hui et de peut-être même le pousser plus tard sur différents médiums, que ce soit mobilier, etc. En fait, le fait de transformer, le fait de se dire que rien n'est jamais fini et figé, c'est ce qui, je pense, m'anime et me donne envie de me réveiller tous les matins et de faire et de modifier certaines choses.
Et si vous aviez... en tout cas, est-ce que vous pouvez citer des références artistiques? Enfin, deux, trois, comme ça.
Balancez vos noms.
Ouais.
C'est la question qui m'a toujours angoissée à l'école. Elle revient.
La question de l'étudiante en art.
Ben oui. Moi, je suis beaucoup inspirée par le travail de Katinka Bock, qui est une sculptrice allemande. Mais en tout cas, mon travail artistique, il se situe... Il a un peu une esthétique qui pourrait... collé avec les artistes minimalistes, mais un processus qui s'inspire vachement des artistes de support surface.
Ouais. Ben moi, à l'atelier, il m'avait dit qu'il fallait que je fasse trop des références. Et j'avoue, comme j'ai pas fait d'école et tout, Tyler the Creator, ça marche
oui,
ou pas?
Oui, tu les as dit tout à l'heure.
En vrai, ouais, les références, ouais, c'est ça globalement. Enfin, c'est plutôt des références visuelles. Look est aussi de manière peut-être plus personnelle, le fait de voir des personnes racisées faire des choses, c'est un truc de ouf. Donc c'est deux refs là tous les jours de la semaine, quoi.
Et alors pour vos processus créatifs respectifs, et peut-être si vous les avez vus à l'œuvre pour les deux artistes de l'exposition, Florent Gay et Gwenaëlle Lebé, comment ça se passe? Quelles sont les étapes de création? Oui, c'est vrai que ma question était un peu fourre-tout, pardon. on parlait donc de références, d'inspiration. Vous, dans votre processus créatif, voilà, quelles sont les étapes qui vous amènent entre l'idée et la réalisation?
Quelles sont les étapes? Je pense que c'est un peu propre à chacun. En tout cas, chacun fonctionne différemment là-dessus. Moi, je sais que je suis vachement inspirée par les architectures à la fois urbaines et rurales. Et du coup, c'est en me promenant des photos que j'arrive à dégager des formes et en tout cas à les réaliser après en céramique. Je pense que pour Flo, ça passe d'abord par l'observation. En tout cas, il y a une forme de croquis. Et Gwen, je sais que lui, il a... Il s'inspire bah ouais, entre réseaux sociaux, télé, toutes ces images un peu grotesques qu'on peut dégager des médias, et après c'est retravailler ces images avec beaucoup de références aussi qui lui sont propres, et assez un humour assez cynique. Et après, une fois que l'image elle est là, c'est parti pour une gravure. Mais je pense que ça dépend de chacun. Il y en a plein qui ont une idée de pièce et qui vont la réaliser, et d'autres c'est des fois un peu plus latent, ou au feeling, ou à l'intuition, même si mes profs seraient pas contents, mais je le dis quand même ici.
Et donc toi, Aubry, est-ce que tu dessines avant de recycler des vêtements, ou tu fais tout vraiment sur une même lancée?
Bah pareil, on m'a dit que ce serait bien de faire des croquis.
Oh, le mauvais élève. Après on dit tu vois, si tu fais pas, c'est pas pour ça que ça marche pas,
hein. Oui, oui. Non, moi je suis plutôt dans l'instantané, sauf quand je conçois une collection, ou quand on conçoit une collection, on a 3, 4, 5 axes de création. Souvent c'est les médiums utilisés, donc broderie, couture, sérigraphie par exemple, on se dit on va faire que ça. Mais sinon non, c'est plutôt de l'instantané, c'est je vois une pièce et j'ai ma craie et je commence à tenter des formes, etc. Et genre j'essaye direct à la peinture, parce qu'en fait à chaque fois que j'essaye de faire une forme de préparation, le rendu qu'il y a sur un bout de papier ou même à la craie sur le vêtement n'est jamais le même que le rendu final avec la peinture. Donc c'est plutôt en premier jet comme ça, ce qui me permet en fait de filtrer. Et c'est aussi ça qu'il y a de cool avec le vêtement, c'est que comme il est interchangeable constamment, c'est jamais raté. Enfin, il y a toujours moyen de récupérer, tu peux toujours déchirer si jamais, recommencer, repatcher. Donc non, moi je suis plutôt dans l'instantané et dans la création feeling, on va dire.
J'ai une dernière petite question. À quelles difficultés on fait face quand on est un collectif d'artistes ou quand on est en freelance, pour toi, Audrey?
Ne pas oublier de se déclarer tous les mois, c'est important.
Ah ouais.
Non, globalement, en vrai, c'est souvent sur l'aspect pécunier que c'est le plus compliqué. Le fait de peut-être pas aussi avoir assez de recul. Tu te réveilles pas, il y a personne qui viendra peindre à ta place. Voilà, c'est des enjeux un petit peu différents. T'es un petit peu lancé, c'est un choix que tu fais, donc en fait t'es obligé d'assumer d'aller au bout, mais il y a ce truc de t'es lancé dans une fosse au lion et il faut faire. Donc je dirais que c'est la difficulté principale, et le fait de, ouais, je répète, ne pas avoir de recul sur tes pièces. Donc, tu peux être hyper satisfait et finalement c'est peut-être pas si ouf que ça. Donc essayer de trouver un équilibre entre, enfin, se dire en fait que la création, dans le processus de création, il y a un temps de repos et de recul important à avoir pour continuer le marathon, en fait. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs, genre, un truc comme ça, globalement.
Oui. Et alors, pour terminer cette émission en beauté, donc on rappelle que le vernissage de l'exposition Le Plus Difficile serait d'imaginer que les oiseaux arrêtent de danser, c'est demain. Est-ce qu'on peut rappeler donc l'heure, le lieu et combien de temps on va pouvoir voir cette exposition?
Eh bien, du coup, l'heure, c'est à 18h demain au 5 bis rue Étienne Martineau. C'est de 18h à 21h. L'expo est visible du 10 avril au 22 mai. Elle est ouverte le mercredi de 14h à 18h, les samedis et dimanches de 15h à 18h. Et voilà, si vous pouvez venir demain et revoir l'expo aussi après. Et je sais que Gwen et Flo sont en train de préparer des arancini pour demain, donc si vous en voulez.
Et est-ce qu'il y a d'autres événements sur lesquels on pourra retrouver le collectif, ou sur lequel le public pourra se rendre à l'atelier 5 bis?
Oui, on a déjà une petite, en tout cas un petit visuel des prochaines dates. Je sais qu'il y aura un codex numéro 2, du coup, qui est une exposition portée sur des éditions d'artistes, qui sera là fin juin. Et puis on essaye aussi de monter une mise à disposition d'ateliers avec une restitution en septembre, puis après une autre ouverture en octobre, et sûrement une autre exposition en novembre. Et donc c'est un peu les grosses dates. Et puis je sais qu'on a aussi la volonté de vouloir ponctuer ces dates avec d'autres événements ou des micro-événements, comme Audrey aime bien.
Ouais, des petits événements annexes, que ce soit musicaux ou d'expositions au marché de créateries, etc., sur des petits week-ends, des petites dates qui entoure et complète en fait les grosses productions, les grosses créations d'invitations d'artistes qui sont superbes d'ailleurs. Mais on a envie de combler aussi ces vides-là. Moi, je suis membre d'un collectif pluridisciplinaire à côté qui s'appelle Sous Blister. On aimerait bien organiser un dimanche DJ set, faire rencontrer les gens, continuer en fait de créer cet espace de rencontre, continuer de confronter les idées, etc., discuter. Il y a plein d'idées en tête, maintenant il faut les faire, mais je dirais des échéances qui arrivent. Une potentielle exposition aussi d'Antonin qui fait les bonsaïs, membre du collectif aussi et de l'atelier 5 bis. Donc c'est des petites choses qui vont se caler tout au long des mois à venir et qui vont pouvoir arborer un peu cette belle année, cette belle première année en vrai.
Ouais.
Parce qu'on a un an aujourd'hui, on a récupéré.
C'est clair.
Voilà, de belles choses.
Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, sur mon Instagram. Donc Atelier 5 bis et Collectif Olala, et vous trouverez tous nos Insta respectifs en tout cas. Voilà.
Et ben c'est parfait, merci beaucoup pour votre participation et merci beaucoup Louise aussi de nous avoir accompagnés sur cette émission.
Merci pour votre accueil.
Mais ici.
Merci pour l'accueil.
Merci à vous.
Et donc le podcast de cette émission est à retrouver sur radiocampustour.com. On se laisse sur une touche de musique avec une autre proposition de nos invités. On écoute Tempête de Mansfield T.Y.A. et nous vous souhaitons une agréable soirée.
Radio Campus Tour, 99.5 FM et sur www.radiocampustour.com.
Radio Campus Tour.